is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all.
O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast conçu et produit pour la plateforme Spectre, spectremedia.org, mais disponible aussi, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à soutenir Spectre. Spectre, c'est un projet militant, non lucratif, sans pub. N'hésitez pas à relayer nos podcasts auprès de vos amis, de vos collègues, de vos camarades. Et si vous le pouvez, à soutenir financièrement également ce projet. Ce nouvel épisode est un peu spécial parce que je vous propose d'écouter un entretien que j'ai réalisé en février dernier pour le site Hors Série avec l'historien Johan Chapoutot autour de son livre « Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir ?», un livre qui est paru aux éditions Gallimard. Un livre qui pose la question du processus, en quelque sorte de fascisation, qui a conduit au cours de la séquence 1930-1933 à l'arrivée au pouvoir de Hitler, qui, contrairement à ce qu'on raconte généralement, Hitler n'a pas pris le pouvoir par la force, ou ce qu'on raconte, en tout cas ce qu'on a tendance parfois à penser, mais le pouvoir, en quelque sorte, lui a été servi sur un plateau par une bonne partie des élites allemandes, élites économiques, élites politiques, élites y compris médiatiques. On trouvera évidemment toute une série de parallèles avec la situation contemporaine, y compris en France. Et donc je pense que ce livre doit être lu, connu, et j'espère que vous trouverez cet entretien intéressant. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Paletta. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir pour Hors Série de recevoir l'historien Johan Chapoutot, spécialiste reconnu de l'Allemagne, en particulier du nazisme, auteur de très nombreux ouvrages, en particulier « La loi du sang, penser et agir en Asie » ou encore « La révolution culturelle nazie » ou encore « Libre d'obéir » qui avait fait l'objet d'une émission sur Hors Série. Professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, il vient de publier le livre intitulé « Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir » aux éditions Gallimard. Quelques mois plus tôt, il avait publié avec deux autres historiens français du nazisme, Nicolas Patin et Christian Ingrao, une synthèse, à mon sens, incontournable, intitulée « Le monde nazi » aux éditions Talendier. Bonjour Johan Chapoutot.
Bonjour Hugo.
Le livre dont nous allons parler, « Les Irresponsables », est à l'évidence un livre d'histoire portant sur une séquence historique très précise, très circonscrite, qui va du printemps 1930, pour l'essentiel, l'arrivée au pouvoir de Brüning et son discours de politique générale, jusqu'au 30 janvier 1933, date à laquelle Hitler est nommé chancelier par le président du Reich Hindenburg, une séquence dont on ne saurait exagérer l'importance, puisque Hitler et la politique de Hitler et de son parti vont conduire à la Seconde Guerre mondiale et aux horreurs que l'on sait, en particulier, bien sûr, le génocide des Juifs d'Europe et des populations roms. Donc c'est un livre d'histoire, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est peut-être pas simplement un livre d'histoire, ou plutôt il s'agit presque d'une histoire du temps présent, peut-être même d'une histoire immédiate, tant on ressort de la lecture proprement effaré ou presque sidéré de l'ampleur des parallèles entre cette séquence historique et la nôtre, en particulier en France. Et Johan Chapoutot insiste là-dessus dans l'épilogue en énumérant pendant presque deux pages les parallèles entre cette séquence 1930-1933 et en quelque sorte la nôtre, sans évidemment rabattre l'une sur l'autre. Ah bon. Donc on aura l'occasion sans doute d'y revenir dans cet entretien, mais ça devrait peut-être déjà nous sortir de ce petit confort dans lequel on se complaît parfois, consistant à s'imaginer que ce qu'on appelle les pires heures de l'humanité seraient nécessairement derrière nous, parce que nous aurions assimilé d'improbables leçons de l'histoire. Et j'ajouterai, au regard de l'actualité politique française ou de l'actualité internationale, en particulier en Palestine, il paraît assez probable que plus on monte dans la structure des privilèges et des pouvoirs propres à nos sociétés, plus on va vers les dominants en somme, et plus il semble que rien n'a été appris de l'histoire. On pourrait d'ailleurs évoquer le fait que le nazisme, malgré la fascination dont il fait l'objet, et malgré l'énorme quantité de discours qui le convoquent, le nazisme est en fait très méconnu et que continue de circuler une quantité proprement industrielle de clichés, de contre-vérités, d'erreurs historiques absolument flagrantes et évidentes. Pour n'en prendre que quelques-unes, évoquées récemment dans ce qui tient lieu de débats publics ou médiatiques, le fait que le nazisme aurait été de gauche, ou socialiste, notamment sur le plan de la politique économique et sociale ou de sa vision de l'État, par exemple, ou du rôle de l'État dans l'économie, on y reviendra peut-être, qu'il aurait été le parti des petits, des ouvriers, des exploités, ou encore qu'il serait parvenu au pouvoir par ses propres forces uniquement ou en gagnant la majorité du peuple allemand. Alors justement, sur cette méconnaissance, et ce sera peut-être ma première question, cette méconnaissance concernant le processus qui conduit Hitler au pouvoir, vous revenez, Johann Chapoutot, dans l'introduction sur la manière dont on écrivait cette histoire et dont on écrit cette histoire aujourd'hui dans les manuels scolaires destinés aux collégiens et aux lycéens ou aux lycéennes. Et vous notez un évident appauvrissement et surtout une esquive presque complète de la responsabilité, de la question de la responsabilité des élites économiques, politiques, militaires, des élites allemandes. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point qui me semble absolument symptomatique ? De quoi c'est d'ailleurs le symptôme ?
Effectivement, lorsqu'on compare des manuels des années 80-90 aux manuels actuels, j'ai fait cette recension pour les classes de 3e et de 1ère terminale, puisque maintenant c'est en terminale, on est frappé par l'occlusion de la question, effectivement. On considérait, il y a encore 20 ans, qu'il était indispensable de faire réfléchir de jeunes futurs citoyens à cette question de la disparition d'une démocratie au cœur de l'Europe. On estimait que c'était important pour la formation civique. Et manifestement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, au niveau des programmes comme au niveau des manuels. Alors, ça ne préjuge pas du tout de ce que font les professeurs d'histoire-géographie en cours, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ceux qui font les programmes, assez obscur d'ailleurs en France la manière dont ça se passe, puisqu'on se rend compte que les universitaires ou les spécialistes de la question sont assez peu, voire pas du tout consultés sur ces questions-là, on estime que ce n'est plus forcément nécessaire. Ajouter à ça le fait que ce que l'on trouve dans les manuels est généralement faux. On véhicule cette idée qu'il y a une sorte de poussée tectonique du parti nazi, ce qui n'est pas le cas, que par ailleurs cette poussée, qui est conçue dans des termes quasi géologiques, hein, comme un phénomène naturel qui serait inéluctable, inexorable.
Oui, lié à la crise,
exactement.
Et donc le parti nazi progresse inéluctablement vers le pouvoir.
C'est ça, avec une forme de matérialisme assez vulgaire, hein, très mal compris, qui poserait une consécution entre crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique. Or, ça ne se passe pas réellement comme cela, même si évidemment le soubassement ou l'arrière-fond de la crise économique est important pour expliquer les gains de voix du parti nazi. D'ailleurs, moins dans les victimes directes et immédiates de la crise, les ouvriers, les chômeurs, que dans des classes moyennes qui se trouvent assez ébranlées et qui se trouvent placées dans un état d'inquiétude, voire de panique vis-à-vis de la crise qui monte. Donc, c'était pour reprendre ces questions-là que, premièrement, j'ai voulu faire ce livre.
Alors, peut-être venons-en au cœur du livre, bien résumé par le sous-titre « Qui a porté Hitler au pouvoir ?» Et tout est important dans ce sous-titre. Ce qui suppose de rompre avec le récit triomphaliste des nazis eux-mêmes, et par ailleurs, qui est le même d'ailleurs en bonne partie que celui des fascistes italiens, le récit de la révolution fasciste, la révolution nazie, à savoir, en gros, nous avons conquis le pouvoir au nom du peuple, ou parce que nous avions conquis le peuple. Mais ce qui suppose aussi de rompre avec le récit, un certain récit dominant qui d'une certaine manière épargne les élites, justement, en disant ils ont conquis la majorité en quelque sorte, voire ils l'ont conquis par la force, ce qui n'est pas vrai, même s'ils ont beaucoup usé évidemment de la violence. Et vous montrez très bien dans ce livre que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées.
Alors, il y a deux récits qui sont faux en réalité. Le premier, c'est un récit nazi, qui est celui de la prise de pouvoir. Les nazis parlent de Macht Ergreifung et d'ailleurs vont ériger ce jour du 30 janvier 1933 en jour fondamental de leur calendrier politique et de leur calendrier rituel et cérémoniel. Ils auraient pris d'assaut le pouvoir comme on escalade un donjon. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je propose la formule qui est que les nazis n'ont rien pris du tout puisque le pouvoir on leur a donné. On leur a donné vraiment sur un plateau. Hein. Et à un moment d'ailleurs où ils allaient assez mal, on va y revenir. L'autre l'autre récit qui est faux, c'est celui dont on parlait, c'est celui de la marée montante, la marée brune, autre métaphore naturalisante. Hein, mmh. La tectonique, la géologie et l'hydrologie sont convoquées, voire l'océanographie sont convoquées à chaque fois. Il n'y a pas eu de poussée inéluctable et continue de l'électorat nazi. Hein, pour preuve, cet électorat s'effondre à l'automne 1932.
Oui, c'est ça, ils perdent 4 points entre les élections de juillet 32 et celles de novembre.
C'est ça, il y a deux élections législatives entre juillet et novembre 1932, la suite de deux dissolutions, et après une acmé à l'été 1932, 37%, il tombe à 33%, ce qui reste considérable, mais en tout cas la dynamique de poussée qui était à l'œuvre depuis 1928 s'est effondrée. Pire que cela, ça c'est au niveau du Reich, hein, au niveau national, mais vous avez tous les scrutins locaux, cantonaux, municipaux qui, à l'automne 1932, sont absolument dévastateurs pour les nazis. Parce que là, ils décrochent de 10, 20, 30, parfois 40 points selon les scrutins, avec un scrutin qui est notamment... qui épouvante Joseph Goebbels, qui en parle longuement dans son journal, qui sont les élections municipales à Weimar, ville symbole s'il en est, ville nazie par ailleurs, hein, la Thuringe est une forteresse nazie depuis 1930, avec un gouvernement droite, extrême droite, qui est en place depuis 1930, et à Weimar, ils perdent 35 points. Ce qui suscite une inquiétude folle à la tête du parti, voire une panique, une humeur dépressive avérée hein, chez les chefs du parti. Et c'est précisément à ce moment-là que certains ont eu l'idée de génie de s'allier avec les nazis pour véritablement les installer au pouvoir, au moment même où eux-mêmes n'y croyaient plus.
– Oui, d'autant plus que à cette désorientation qui commence à poindre dans le parti nazi s'ajoute le risque d'une scission. C'est-à-dire qu'en gros, en décembre 32, janvier 33, le parti aurait pu se disloquer. Et bon, voilà, ça pose des questions sur ce qui aurait pu se passer évidemment dans ce cas. Mais...
– Alors, en réalité, c'est l'hypothèse la plus plausible. Et c'est celle qui est d'ailleurs privilégiée au plus haut niveau, hein, par un Hitler, par un Goebbels, un Himmler et un Göring, qui sont très inquiets, dans la mesure où le parti nazi, c'est un peu comme une bicyclette, hein. On sait qu'il faut continuer le mouvement pour ne pas s'effondrer, le parti nazi ne fonctionnait que sur l'ordalie électorale en fait, sur des gains répétés, croissants, etc. Or, les nazis ont fait plateau entre le printemps, élection présidentielle, et l'été, élection législative, ils gagnent très peu de voix entre les deux scrutins du printemps et de l'été, et ensuite ils reculent. Autrement dit, cette dynamique qui tenait le parti de manière cohérente n'est plus. D'où le risque de désagrégation. Et alors, à tous les niveaux, hein, au niveau local, ce sont des Sturm de la SA, c'est-à-dire des unités de la SA qui se mutinent. Au niveau régional, ce sont des Gauleiters qui commencent à faire défection, des Gauleiters très puissants, hein, celui de Hambourg, de Saxe, etc. Et au plus haut niveau, vous avez le numéro 2 du parti, Gregor Strasser, qui est en fait le véritable chef du parti. Hein, c'est lui qui est à la manœuvre pour recruter les cadres, pour organiser administrativement le parti, veut s'en aller. Ainsi que quelqu'un qui est censé être un des paladins d'Hitler, qui est Wilhelm Frick, qui est un type très important, c'est le chef de la fraction, enfin du groupe parlementaire nazi au Reichstag, et par ailleurs, ça a été le premier ministre nazi, puisqu'il a été ministre de l'Intérieur en Thuringe depuis 1930. Tous ces gens-là songent à une scission qui ferait la différence entre les maximalistes qui veulent la chancellerie, Hitler, et ceux qui sont prêts à un accommodement avec une droite plus conservatrice ou libérale autoritaire. Et c'est l'hypothèse qui est travaillée en réalité par le chancelier Schleicher en décembre 32 et janvier 33.
Alors, on va revenir sur certains aspects justement de ce travail. Peut-être pour ceux et celles qui nous regardent ou nous écoutent, c'est peut-être utile de brosser une sorte de périodisation de cette séquence 1930-1933 avec ces différentes figures que sont Brüning, Papen, Schleicher justement, et peut-être revenir un peu sur leur rôle et de peut-être de souligner pour commencer que tout commence par une politique violemment austéritaire, donc qui est celle de Brüning.
Alors, tout commence en réalité, effectivement, au printemps 1930, à un moment où un gouvernement de coalition, qui était d'ailleurs présidé par les sociodémocrates, hein, c'était un chancelier SPD, Hermann Müller, démissionne puisque la droite et la gauche ne sont pas d'accord sur la réponse à apporter à la crise. La gauche veut plus de dépenses, la droite veut un équilibre budgétaire, tout le monde se sépare. Et à partir de ce moment-là, le président Hindenburg et son entourage décident de confier le gouvernement à une équipe qui serait uniquement présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne reposerait pas sur le Parlement, comme c'est le cas depuis 1919, on est dans le cadre d'une république parlementaire où le gouvernement est investi par le Parlement, peut être renversé, etc. Mais qui tiendrait sur, et qui gouvernerait sur la seule signature du président du Reich. L'idée qui est avancée, c'est d'utiliser un article, l'article 48.2 de la Constitution de Weimar.
Qui n'est donc pas l'article 49.3, c'est encore.
Mais qui l'a fortement inspiré, puisque de fait, notre Constitution directement dérivée de celle de Weimar dans sa torsion post-1930. Et cette torsion consiste à faire gouverner sur le fondement de pouvoirs d'exception du président du Reich, des ordonnances d'exception, qui sont des décrets-lois, une espèce de monstruosité juridique, qui consiste à faire passer pour un texte de loi ce qui n'est qu'un décret, c'est-à-dire un acte de l'exécutif. Et ce qui avait été pensé en 1919 comme étant une réponse possible à une catastrophe naturelle, une invasion du territoire, une révolution, que sais-je, et qui avait été beaucoup utilisé d'ailleurs dans ces conditions-là par le président Ebert, président social-démocrate, jusqu'en 1925, là, on l'utilise pour l'ordinaire des affaires de l'État. Mmh. Et en l'occurrence, pour faire passer des budgets, de nouvelles taxes, par exemple. Puisque la politique du chancelier qui est nommé, qui est un homme de droite, un homme du Zentrum, catholique, qui s'appelle Heinrich Brüning, qui est docteur d'ailleurs en économie, cette politique est une politique orthodoxe, celle que l'on faisait à l'époque lorsqu'on avait peu d'imagination et qu'on était de droite, c'est-à-dire que face à une crise, on va faire une politique procyclique qui va aggraver la crise, on va réduire les dépenses de l'État, on va réduire le salaire des fonctionnaires, on va mener une politique dite de déflation de la masse monétaire, que l'on appelle aujourd'hui une politique austéritaire. Cette politique est un échec, à telle enseigne que 2 ans plus tard, Brüning est lâché par ceux qui le soutenaient, c'est-à-dire le patronat, la banque, l'armée, la haute fonction publique, etc. Puisque ce que réclament ces milieux-là, désormais, c'est une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent de l'État, on va moins s'intéresser au déficit et à la dette, on va dépenser de l'argent, non pas pour le donner aux consommateurs, ce qui serait une politique de la demande, et ce que prône d'ailleurs Keynes déjà à l'époque, mais une politique de subvention au patronat, aux entrepreneurs, comme ils le disent, et de dérégulation sociale massive pour permettre au patron d'avoir les coudées plus franches. Cette politique de l'offre, elle va être menée par un nouveau chancelier, qui est nommé le 4 juin 1932, qui est Franz von Papen. Et j'accorde beaucoup d'importance à Franz von Papen et à son entourage, parce que, bon, quand on parle encore de la République de Weimar, on ignore complètement ces gens-là. Or, eux se prennent très au sérieux, s'installent pour une durée très longue, se définissent clairement comme des libéraux autoritaires, libéraux d'un point de vue économique et autoritaires parce qu'ils sont assez peu démocrates, et puis parce que la condition pour mener leur politique de l'offre, c'est une politique de réduction de la démocratie. Et je les prends très au sérieux parce qu'ils ont joué un rôle très sérieux en réalité, puisque in fine, ce sont eux qui vont faire alliance avec les nazis.
Alors, j'ai l'impression justement qu'il y a 3 manières un peu de lire votre livre et qui renvoient justement aux personnages qui sont au cœur de l'ouvrage, Brüning, von Papen, Schleicher, Hindenburg, père et fils d'ailleurs, Hugenberg, Carl Schmitt. Une première manière, excusez-moi, c'est de donner toute leur importance à ces acteurs historiques en tant que tels, y compris lorsqu'ils sont d'une insondable médiocrité, comme notamment le fils de Hindenburg qui va jouer un rôle très important et démesuré. Mais bon, c'est pas la première fois que des gens médiocres exercent un rôle important dans l'histoire, c'est même tout le thème de départ du livre de Marx sur le 18 rumeurs de Louis-Napoléon Bonaparte. Une deuxième manière, c'est de les saisir, ces individus, en tant qu'ils représentent des courants politiques. On avait parlé, le libéralisme autoritaire, le centre catholique, les nationaux conservateurs de Hugenberg, etc., et de se demander quels ont été leur rapport avec le nazisme et leur rôle dans l'arrivée au pouvoir des nazis à ces différents courants politiques. Et enfin, et une troisième manière qui est de saisir ces individus en tant qu'ils incarnent ou qu'ils portent les intérêts, les exigences, les imaginaires, les désirs peut-être de classe ou de fractions de classe différentes. Une lecture plus matérialiste historique ou marxiste ou marxisante. Est-ce que je me trompe en pensant que vous aviez un peu en tête cette triple préoccupation ou plutôt cette volonté de ne pas opposer des approches de ne pas choisir entre des approches qu'on a généralement tendance à opposer?
Non, c'est très juste, c'est très juste, et je me suis surpris à accorder beaucoup plus d'importance que je ne le fais d'habitude à des questions d'individualité, de personnes, parce que de fait, dans un régime qui a muté au printemps 1930, on est passé d'un régime parlementaire où on raisonne en masse, en groupe, en idées, en négociations, en coalitions, élections, etc., à un régime présidentialiste qui est hyper personnalisé, qui accorde des pouvoirs assez démentiels à un seul homme, le président du Reich, alors qu'il est entouré d'un tout petit cabinet de gens pas forcément très éclairés intellectuellement, mais très puissants, et qui représentent d'ailleurs les principaux intérêts que vous avez énumérés. Puisque, de fait, il y a l'armée en la personne de son fils, qui est officier de carrière, et du général von Schleicher. On a les grands agrariens avec le grand propriétaire Ehlard von Hollenburg-Janoschau. On a la haute fonction publique avec Otto Meissner. Et périphériquement, on a la banque et l'industrie qui font le siège de, et antichambre auprès du président du Reich. Et c'est un petit groupe qui est gouverné par des intérêts parfois sordides, hein, quand on pense au patrimoine de la famille Hindenburg qui va jouer un rôle décisif, in fine, patrimoine et question fiscale de la propriété terrienne de la famille Hindenburg, ben, le tout étant évidemment relié à un groupe plus grand qui est celui des grands propriétaires terriens qui jouent un rôle énorme en Allemagne.
Et qui ont peur de la réforme agraire notamment.
Qui ont peur de la réforme agraire. Ce qui est fascinant, c'est que Brüning chute au printemps 1932, in fine, sur la question de la réforme agraire. Il veut lotir les grandes propriétés terriennes à l'Est qui ne sont pas cultivées. Donc ça, c'est pas possible, puisque Hindenburg en fait partie de ces grands propriétaires. Et Schleicher, en janvier 1933, ce sera à nouveau le cas. Donc ces gens-là qui sont souvent des médiocrités insignes, le fils Hindenburg étant l'exemple paradigmatique de cette médiocrité-là, incarne à la fois des cultures politiques, des imaginaires sociaux, incarne des histoires aussi de long terme héritées de l'Empire allemand, et incarne des intérêts très précis qui, encore une fois, ont leur ronde serviette à la présidence du Reich, puisqu'ils font antichambre, voire chambre tout court, auprès d'Hindenburg et décident de la politique du Reich. Autrement dit, on est passé vraiment d'une démocratie parlementaire qui fonctionnait tant bien que mal à quelque chose qui est un gouvernement d'influence, de lobby, un gouvernement de factions qui représente des intérêts sociaux et économiques évidents.
On pourrait parler de société de cour, peut-être, non ?
Oui, alors on passe effectivement à un fonctionnement courtisan, uniquement courtisan, hein, de la politique, puisque tout se décide désormais dans un tout petit groupe de 5 à 10 personnes, où encore une fois, les équations personnelles jouent leur rôle. Oui.
Et c'est d'une certaine manière, comme vous le dites, l'évolution de la pratique des institutions qui crée ce climat dans lequel du coup les mesquineries individuelles les plus sordides prennent une importance historique extraordinaire.
Oui, et c'est là qu'on voit d'ailleurs à quel point, au fond, les institutions, ou la pratique plutôt de la Constitution, crée un type de gouvernement, crée un type d'homme.
La fonction crée l'organe.
La fonction crée l'organe, effectivement, et on le voit de manière exemplaire. Au printemps 1930, quand l'entourage présidentiel prend désormais une importance décisive dans la mesure où Hindenburg revêt des pouvoirs exceptionnels, alors qui lui sont conférés par la Constitution, mais un usage tordu, vrillé de la Constitution, qui est permis en réalité par la stature historique, mémorielle, symbolique du personnage. Il est possible, et je fais une histoire contrefactuelle en revenant à l'élection présidentielle de 1925, il est possible que, même quasiment certain, que celui que Hindenburg a battu d'un cheveu en 1925, bon, qui était un centriste de droite, mais qui s'appelait Marx, hein, Wilhelm Marx, aurait eu une pratique totalement différente des institutions et n'aurait pas créé cette dégénérescence institutionnelle qui a précipité le parlementarisme dans un présidentialisme courtisan, avachi et parfaitement égoïste.
Alors, dans toute cette affaire, il y a un personnage qui m'a beaucoup intéressé, y compris parce qu'il est moins souvent évoqué que von Papen ou Schleicher, c'est Hugenberg, auquel vous consacrez un chapitre, le chapitre 3. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est ce Hugenberg, quelle est sa trajectoire, qui est très riche et assez complexe, où il va naviguer entre différents milieux, et pourquoi il joue un rôle important, peut-être crucial, dans le processus d'accès au pouvoir des nazis, et peut-être aussi pourquoi il nous parle au présent.
Il y a une excellente biographie du personnage qui est intitulée en allemand « Der Vergessene Führer », le Führer oublié. De fait, Hugenberg, plus personne ne sait de qui il s'agit. Or, c'est un homme qui a peut-être eu une importance absolument décisive à la fin des années 20, dans la mesure où c'est lui qui a nazifié l'espace public cognitif allemand. Il a, par ses investissements dans les médias, hein, c'est quelqu'un qui vient de la haute fonction publique, puis de l'industrie lourde, et qui a investi massivement dans les médias dès la Première Guerre mondiale, il a contrôlé en propriété directe une vingtaine de médias, plus deux compagnies de cinéma, dont celle qui faisait des actualités cinématographiques à l'écran, et par un système d'agences qui livrait tout près des éditos et tout rédigeait des rubriques, il a contrôlé 1600 journaux. En réalité,
sans intelligence artificielle,
mais avec un profit capitalistique évident, puisque c'était un homme d'argent qui non seulement voulait imposer ses cadrages, ses thèmes, ses idées, ses mots et ses obsessions, dont celle du bolchevisme culturel qui était un peu le wokisme de l'époque
ou le marxisme culturel, parce que notamment dans les Amériques, c'est un thème permanent de complainte des extrêmes droites, qui est le marxisme culturel, notamment au Brésil, aux États-Unis également,
qui est un terme directement dérivé du kulturbolchevisme. De l'extrême droite allemande de la fin des années 20. Et au fond, c'est quelqu'un qui a réussi à complètement nazifier l'espace public, sans être lui-même un nazi, parce que c'est un homme d'extrême droite. Il dirige d'ailleurs un parti à partir de 1928 qui est le DNVP. Il veut jouer un rôle politique et il sera d'ailleurs ministre de l'économie dans le gouvernement de coalition droite-extrême droite de janvier 1933. Et encore une fois, c'est un magnat des médias très puissant qui a réussi à imposer tous les thèmes et toutes les thèses de l'extrême droite allemande et qui a fait au fond le travail pour les nazis. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait partie de ces élites de droite. Alors, lui, il est plutôt national-conservateur, mais pour les libéraux autoritaires autour de von Papen, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont cru faire une excellente affaire en faisant des calculs arithmétiques et des adjonctions de pourcentage pour s'allier avec l'extrême droite, mais qui n'ont pas vu au fond et qui n'ont pas compris à qui ils avaient réellement affaire. Et il fait partie de ces gens qui ont été des marchepieds, ou qui ont fait la courte échelle à l'extrême droite, pour finir complètement dévoré, dégluti et recraché par cette même extrême droite, puisqu'il atteint le sommet de sa carrière en janvier 1933 comme ministre de l'économie, et en 6 mois, il n'est plus ministre, il doit céder tout son empire médiatique au très entreprenant Joseph Goebbels.
Et au-delà de son rôle comme constructeur d'un empire médiatique qu'il met au service des nazis, il était lui-même un personnage important de l'industrie allemande.
Ah oui, alors il fait partie des grands responsables de l'industrie lourde, mais à partir de la Première Guerre mondiale, il change son portefeuille d'investissement vers les médias, parce qu'il a compris pendant la Première Guerre mondiale qu'au fond, la presse était plus importante que les canons Krupp. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a travaillé en tant que chef de parti depuis 1928 à l'Union des droites. C'est quelqu'un qui veut l'Union des droites et qui a joué un rôle très important dans cette dynamique qui a rendu les nazis fréquentables. Il les associe à des meetings, il les associe au front de Habsbourg qui se crée en octobre 1931. Il ne comprend pas à chaque fois que les nazis en fait sont là pour prendre ce qu'on leur donne, mais pour ne jamais respecter le contrat ou la parole, et certainement pas pour jouer franc jeu avec leurs alliés. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris, à la différence d'un von Schleicher, par exemple.
Mais qui le comprend tardivement, puisqu'il a quand même poussé beaucoup en 1931-1932 pour intégrer les nazis à ce front des droites, et notamment, il voyait les SA comme un bon contre-pouvoir, en quelque sorte, à ces mouvements de gauche. Alors, on oublie souvent que le SPD était sans doute le premier, le plus grand parti socialiste du monde. Mais donc, ça pouvait contrebalancer, en quelque sorte, le pouvoir de la gauche socialiste et communiste. Mais effectivement, vous dites que c'est vers l'été 1932 qu'il comprend peut-être la nature, en quelque sorte, un peu différente, spécifique, singulière du mouvement nazi.
Alors là, effectivement, on parle d'un autre personnage qui est Kurt von Schleicher et qui est de cette bande de droite le plus intelligent. C'est un personnage qui a un parcours très intéressant parce que bon, c'est un militaire de carrière, c'est un général de bureau, hein, c'est un très haut fonctionnaire de l'armée. Il a un accès privilégié à Hindenburg parce qu'il connaît très bien son fils, ils ont été officiers ensemble, enfin bref, ça fonctionne comme ça. Il est le numéro 2 du ministère ministère de la guerre pendant toute la durée des années 20, et c'est ce qu'on appelle en allemand un Strippenzieher, c'est-à-dire un tireur de ficelle. C'est un manipulateur, c'est un mondain, ultra calculateur, qui a mis d'ailleurs tout Berlin sur écoute grâce au services du ministère de la Guerre, et qui travaille effectivement depuis, en réalité depuis 1929, à l'Union des droites. Et lui, il veut intégrer les nazis à ce bloc-là, puisqu'il constate qu'au fond, nationaux conservateurs, libéraux, autoritaires et nazis sont d'accord sur à peu près tout. Ils sont tous ultranationalistes, ils sont tous antisémites, ils sont tous racistes, ils sont tous ultra-conservateurs d'un point de vue moral.
Social-darwinistes.
Ils sont socio-darwinistes, ils sont bellicistes. Vraiment, tout est question de nuances et d'expression ensuite, mais ils sont d'accord sur à peu près tout. Là où ils butent, c'est que les nazis sont maximalistes et veulent la chancellerie, veulent la direction du gouvernement. Ce qui est très intéressant, c'est que lui, il a travaillé de manière opiniâtre à cette union des droites, jusqu'à au printemps 1932, accéder à toutes les demandes des nazis, c'est-à-dire réautoriser les SA et les SS qui avaient été interdits par Brüning.
Donc les milices nazies.
Les Gröner, exactement. Dissoudre le Parlement, dissoudre le Reichstag, un moment où les nazis sont en pleine dynamique, il ne faut surtout pas dissoudre comme gage de bonne volonté, etc. Et il s'est aperçu ensuite que les nazis ne respectaient pas leur parole de soutenir le gouvernement, et par ailleurs semer le chaos et la violence dans les rues, puisque réautoriser les SA et les SS, ça aboutit à 100 morts pendant la campagne électorale de juillet 1932. Et von Schleicher, qui reste un homme d'ordre, se détourne des nazis et comprend qu'on a affaire avec eux, quand on traite avec l'extrême droite, on a affaire à quelque chose de différent, qu'on ne peut pas traiter seulement en termes de statique, d'addition de pourcentage, mais qu'on doit penser la dynamique politique, et que cette dynamique politique, elle va très loin pour les nazis. Et ça, c'est ce que je retrace également dans le livre, à partir du journal de Goebbels. Goebbels, il dit à un moment, tous ces bourgeois-là veulent nous agréger à leur gouvernement, mais ils n'ont pas compris qu'on n'était pas comme eux. Ils n'ont pas compris que le Führer et moi, on n'était pas comme eux. Et Goebbels note à un moment dans son journal, le 11 août 32, quelque chose d'absolument sidérant. Il dit, le pouvoir, quand on va nous le donner, ce pouvoir, on ne le rendra jamais, et ce sont nos cadavres qu'il faudra sortir de là. Ça m'a frappé parce que il note ça au moment où son épouse Magda Goebbels est enceinte de leur premier enfant, et effectivement, l'armée rouge a sorti les 6 cadavres des 6 enfants Goebbels le 1er mai 1945.
– Et votre livre ne porte pas sur l'après 1933, mais qu'est-ce qui arrive à Schleicher ?
Alors, Schleicher a un sort funeste comme, en réalité, tous ceux qui ont mis les nazis au pouvoir. Le seul qui en a profité, finalement, c'est le fils Hindenburg, puisque lui, c'est un crétin que personne ne prend au sérieux. Donc, on le bombarde général, hein, il allait terminer colonial, mais on le bombarde général, on lui donne des terres, on défiscalise sa propriété à l'Est, et tout va bien. Par contre, Hugenberg perd son empire et perd son ministère, mais survit. Von Papen échappe à l'assassinat vraiment d'un chouïa au moment de la nuit des longs couteaux, hein, grâce à la protection de Göring. Mais il y a deux de ses conseillers qui sont abattus, l'un d'ailleurs dans son bureau du ministère, la vice-chancellerie, et l'autre, on n'a jamais retrouvé son corps. Et quant à Schleicher, il est criblé de balles à son domicile par un petit commando de membres du SD, hein, c'est-à-dire du service de sécurité de la SS, qui assassine également son épouse.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les nazis ont souvent cette image encore plébéienne, populaire, anti-bourgeoise, sociale, qui correspond en gros, en quelque sorte, à la ligne de Goebbels. Et c'est peut-être un témoignage tardif du succès, de l'habileté, de l'agilité de la propagande de Joseph Goebbels, que le fait que beaucoup aient retenu cette image-là des nazis. Alors même qu'il y a une histoire très bourgeoise, en réalité, du nazisme, ou particulièrement dans cette séquence 1930-1933, notamment des complicités bourgeoises avec le nazisme. Qu'est-ce qu'on doit, à votre avis, principalement verser à ce dossier, en sachant que ça fait bien longtemps qu'on connaît cette partie essentielle, en fait, une partie essentielle de ces complicités bourgeoises avec le nazisme. Est-ce qu'il y a des choses que vous-même avez peut-être découvertes à l'occasion de la préparation de ce livre, ou des choses dont vous n'aviez peut-être pas pris la mesure antérieurement sur cette relation? Parce que, ce que vous dites, Goebbels dit, on n'est pas comme eux, mais ils sont comme eux par certains côtés, et effectivement, ils ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils ont une vision effectivement de la société et de leur projet, en tout cas la frange la plus extrémiste du mouvement nazi notamment, Hitler, Goebbels, etc. Donc ils sont, mais ils font aussi partie de ce monde, des gens comme Frick, des gens comme Göring ou von Ribbentrop qui organisent justement ces dîners mondains entre Hitler et la bourgeoisie allemande.
Ils font partie de ce monde pour certains. C'est le cas de Göring, qui est très bien réticulé dans la bourgeoisie, dans la haute bourgeoisie, par son mariage et par son prestige aussi d'ancien as de l'aviation, de décoré pour le mérite, qui est la plus haute distinction militaire allemande. Von Ribbentrop aussi, hein, qui effectivement met sa villa et ses domestiques à disposition des entretiens secrets entre von Papen, Oscar von Hindenburg, le fils, donc, et puis tous les apparatchiks nazis. Par contre, ce dont la droite classique n'avait pas pris la mesure, c'est des ambitions démesurées de type biopolitique que les nazis cultivaient et qu'ils préparaient en sous-main dans les deuxième et troisième lignes nazies qui travaillent de manière très, très cohérente à l'édification de ce monde nazi qui va rapidement supplanter le leur. Sur le caractère plébéien ou patricien du mouvement, très clairement, le mouvement est un mouvement de droite. Il l'a clairement affirmé dès le début des années 20. Il faut se souvenir que quand le parti nazi est fondé en 1919, c'est un leurre en fait. Hein. Il s'auto-intitule Parti national socialiste des travailleurs allemands pour donner des gages à la droite et à la gauche, travailleurs et socialistes, mais en réalité, la position est une position de droite. Les mouvements sociaux, on les combat, la justice sociale, on s'en fiche, et on est financé par la bourgeoisie qui a bien compris que, dès le début des années 20, hein, qu'il s'agissait de détourner une partie de l'électorat de la solution internationaliste vers la solution ultranationaliste, de la gauche vers la droite. L'ambiguïté ou la confusion tient effectivement à Goebbels. Mais il faut voir que Goebbels agit dans une conjoncture et dans un lieu très particulier. Goebbels, il est responsable de la propagande au niveau du Reich, pour le parti nazi, mais il est aussi Gauleiter de Berlin. Mmh. C'est-à-dire qu'il est le chef du parti nazi dans la région de Berlin, qui est une région de gauche, et pour essayer de changer la culture politique berlinoise et rabattre tout le monde vers le parti nazi, Goebbels va employer des accents sociaux qui tranchent clairement avec la ligne du parti au niveau du Reich et avec toutes les nuances régionales, notamment en Bavière. Jamais adopté ce ton-là. Et de manière, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'il y a des tractations très sérieuses, désormais à l'automne 1932, entre la droite au pouvoir et les nazis, Goebbels ne fait jamais partie des petites délégations. On envoie Göring, on envoie Hitler, mais jamais Goebbels, qui exaspère et horripile la bourgeoisie et l'aristocratie, la banque et l'industrie, qui ne veulent pas du tout de ce petit nabo hystérique et haineux qui incarne à leurs yeux une forme de déviation gauchiste du parti nazi. Il n'est pas question de ça. D'ailleurs, de manière très significative, Goebbels n'est pas ministre dans le gouvernement de coalition droite, extrême droite, Hitler-Papen du 30 janvier 1933.
Il y a très peu de ministres nazis. C'est un gouvernement dominé par les droites.
Sur 12 ministres, il y a trois nazis, dont le chancelier, donc qui n'est pas vraiment ministre, et un ministre sans portefeuille, qui est Hermann Göring. Ensuite, il revêt d'autres fonctions en Prusse, parallèlement, qui sont très importantes. Ils n'ont que ce qu'ils demandent à chaque fois, lorsqu'ils ont fait des gouvernements de coalition. Il faut bien souvenir, je rappelle cela, hein, que l'Allemagne est un État fédéral, et que les nazis gouvernent avec la droite déjà dans trois Länder. Braunschweig, Oldenburg et Thuringe depuis 1930. Et à chaque fois, les nazis demandent un seul ministère, le ministère de l'Intérieur. Ce qui rend d'ailleurs les nazis tout à fait fréquentables du point de vue de la droite, qui estime qu'on a affaire à des gens finalement modérés, raisonnables, qui ne demandent pas tant que ça et qui se révèlent à l'usage, c'est le cas du docteur Frick, docteur en droit, avocat, bourgeois, qui se révèlent des gens tout à fait agréables dans le commerce que l'on peut avoir avec eux. Ils savent très bien se comporter à table, ils savent très bien discuter de littérature et ne sont pas du tout ces voyous de la SA que l'on redoute dans la bourgeoisie.
– Et alors justement, si on prend du côté du patronat spécifiquement, Hitler fait un discours assez marquant que vous décrivez début 32,
oui,
devant un parterre de grands patrons allemands. Les grands patrons allemands, ils attendent quoi exactement de Hitler? Est-ce que c'est strictement la répression du mouvement ouvrier, de la gauche, etc.? Est-ce que c'est restabiliser le champ politique allemand qui est justement où il n'y a plus de majorité au Parlement depuis un moment, où von Papen est obligé de subir une motion de défiance votée à 92% et demi? Qu'est-ce qu'ils en attendent spécifiquement du mouvement nazi?
Alors, je dirais que le patronat veut patronner, en l'occurrence. C'est-à-dire, d'une part, avoir une pratique industrielle qui assure le taux de profit maximal, une loi assez classique, hein, et par ailleurs, redevenir maître chez soi. Il faut remonter un petit peu en amont et remonter à 1918. Le 15 novembre 1918, au moment où il y a une situation révolutionnaire un peu partout en Allemagne, où toutes les familles régnantes des 18 États sont en train de partir, où le Kaiser est parti, vous avez des soviets d'ouvriers et de soldats partout, le patronat lâche tout ce qu'on demande, à la demande des sociaux-démocrates qui viennent d'être installés au pouvoir. Donc ce sont les fameux accords du 15 novembre 1918 qui accordent la représentative syndicale, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, qui reconnaît tout simplement l'existence des syndicats, qui accordent la journée de 8 heures, qui accordent des augmentations de salaire. Et évidemment, le patronat qui lâche tout à ce moment-là, par effet de sauvetage, veut revenir là-dessus. Et il n'aura de cesse finalement de revenir sur toutes ces concessions sociales au cours des années 20. Et ce que promet Hitler, dans toute une série de discours, mais qui commence très tôt, qui commence dès 1928-29, hein, au patronat, pour rassurer le patronat sur les intentions du parti nazi, ce qu'il promet, c'est le match retour, en réalité. Et il va tenir ses promesses, hein, puisque la loi de 1934 sur les Betriebsführer, hein, sur les Führer d'entreprise, détruit complètement tous les acquis, toutes les avancées de 1918. Ça, c'est une première chose, et c'est un motif d'attraction puissante, puisque Hitler, dans ses discours au patronat, ne cesse de dire « Écoutez, moi je suis un social-darwiniste, je suis pour le mérite et la hiérarchie, dans l'armée ça fonctionne comme ça, dans l'État ça doit fonctionner comme ça, et dans l'entreprise, évidemment, vous devez redevenir maître chez vous. » Par ailleurs, il y a la question du profit. Et ça, on parlait tout à l'heure du gouvernement de coalition entre 1928 et 1930, avec des sociodémocrates qui sont bien présents au gouvernement et qui créent des avancées sociales. Hein, une assurance chômage qui est créée en 1927, ça c'est quelque chose qui horrifie le patronat allemand. Le RDI, qui est Reichsverband der Deutschen Industrie, qui est l'équivalent du MEDEF, qui fait une brochure au vitriol fin 1929, intitulée « Croissance ou Apocalypse », en gros, et qui réfute l'idée même d'avoir des gens de gauche au gouvernement et aux responsabilités. Hein, c'est un des facteurs qui décide d'ailleurs Hindenburg et son entourage à gouverner par ordonnance et non plus avec un parlement où les sociaux-démocrates sont présents. Et Hitler, la promesse des nazis, c'est de dire bah, avec nous, il n'y aura plus d'élections, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus jamais de risque futile, minime, infime, qu'il y ait des sociaux-démocrates au gouvernement. C'est une promesse très importante que la droite libérale autoritaire commence à tenir elle-même, puisque le 20 juillet 1932, le gouvernement de Prusse, qui est le plus important des États de cet État fédéral qui est l'Allemagne, est déposé par le gouvernement du Reich. Donc ça, c'est une première étape importante.
Le coup de Prusse.
Voilà, ce coup de Prusse qui prive le SPD de son dernier grand bastion de pouvoir en Allemagne. Et la promesse nazie, c'est évidemment d'étendre cette logique-là au Reich tout entier. Et Hitler le promet dans une série de discours, notamment celui que vous évoquiez, le 27 janvier 1932, devant le club de l'industrie de Düsseldorf, qui est le plus important club patronal allemand, devant 1500 patrons. Hein, les RG à l'époque, la police, note des standing ovations, note un enthousiasme de la part du patronat. Donc à partir de ce moment-là, c'est gagné. Il faut voir que ce qui était gagné depuis longtemps, c'était ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelbau, donc les PME, qui se sont nazifiés très vite, dès la fin des années 20. Quant au grand patronat allemand, notamment l'industrie lourde, ils mettent leurs œufs dans plusieurs paniers et ils financent le NSDAP, mais aussi le DNVP de Hugenberg, mais aussi quantité de petits partis de droite et d'extrême droite, avec une bascule vers Hitler qui se fait en novembre-décembre 1932, au nom précisément de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la stabilité politique.
Et il y a un courrier d'ailleurs qui est envoyé à Hindenburg en novembre, si je ne me trompe pas, par une dizaine, une quinzaine de grands patrons.
Une vingtaine, en l'occurrence, une vingtaine de signataires, donc c'est c'est une requête qui est adressée humblement au très honoré général Feldmarschall Hindenburg pour qu'en fait, pour que enfin plutôt, il nomme Hitler chancelier. Vous avez des très grands noms de la banque et de l'industrie qui signent, beaucoup qui ne signent pas non plus, mais qui sont en soutien de cette démarche. L'idée étant, après que Papen effectivement a été renversé par le Parlement à une majorité de 92,5%, c'est une humiliation terrible, d'assurer une stabilité politique par la fin de la politique, en l'occurrence, par la fin de la démocratie.
Alors tout ça est très intéressant et important, notamment parce que assez souvent on rend la gauche responsable de l'arrivée au pouvoir des nazis, en particulier les communistes, par leur maximalisme, leur volonté d'une révolution de type soviétique en Allemagne, sans, jusqu'à aller à des thèses révisionnistes comme celle de Nolte, qui fait du nazisme une sorte de réaction saine et légitime en quelque sorte, en tout cas compréhensible à la menace bolchevique. Alors la gauche n'est pas absente de votre livre, mais elle est relativement peu présente, donc en particulier les communistes. Par contre, les sociodémocrates sont davantage présents. Il faut rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agissait sans doute du plus grand parti socialiste du monde et un pilier absolu de la République de Weimar. Vous insistez beaucoup sur leur politique, disons, inconséquente, voire incompréhensible, y compris sans doute pour les contemporains et une partie sans doute importante de leur électorat. Cette politique permanente du moindre mal qui les amène à soutenir Brüning, à soutenir l'élection de Hindenburg à la présidence de la République, et qui va conduire aussi, d'une certaine manière, cette politique du moindre mal au pire, en quelque sorte. Alors comment vous les situez, justement, ces sociodémocrates, et notamment les dirigeants sociodémocrates, par rapport à ces irresponsables ? Est-ce que vous les incluez, en quelque sorte, dans cette catégorie des irresponsables, ou est-ce que c'est encore un peu autre chose, leur rôle spécifique dans l'arrivée au pouvoir des nazis ?
Alors, effectivement, je parle de la gauche dans le livre, mais j'en parle peu, dans la mesure où le Parti social-démocrate a beau être le premier parti d'Allemagne, encore jusqu'à l'été 1932, il pèse de peu de poids, dans la mesure où, comme je l'ai dit, à partir du printemps 1930, on passe d'une logique parlementaire à une logique présidentialiste. Dans la mesure où vous avez des lois qui passent par ordonnance, le Parlement n'est plus décisionnaire. Il reste que les ordonnances de l'article 48.2 peuvent être révoquées par l'article 48.3, c'est-à-dire si le Parlement vote une motion de rejet, ce qui se produit une fois au mois de juillet 1930, ce qui conduit d'ailleurs Hindenburg à dissoudre le Parlement. Et à partir de ce moment-là, le SPD décide de soutenir sans participer et théorise ce qu'il appelle la Tolerierungspolitik, la politique de tolérance, au nom, effectivement, vous l'avez dit, de la thèse du moindre mal. On va soutenir Brüning, qui est un homme de droite, qui mène une politique austéritaire, antisociale, violemment antisociale, pour éviter l'arrivée des nazis au pouvoir. Alors, déjà, d'un point de vue philosophique ou principiel, cette politique est toujours délicate, parce qu'il y a toujours pire, en fait. Donc, quand on tolère le moindre mal, il y a toujours plus mauvais, donc pire que ce moindre mal. Donc, jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Et par ailleurs, cette politique de tolérance est un peu plus que ça, en réalité, de la part du SPD. C'est une politique d'acceptation, en réalité, de la politique austéritaire de Brüning. Parce que quand on regarde un peu les milieux qui théorisent l'économie au sein du SPD, ce sont des économistes orthodoxes, très classiques, et assez d'accord avec la thèse déflationniste, en réalité. Alors, il y a des débats, des contestations, etc., mais la ligne qui demeure au niveau du présidium du SPD, c'est une ligne, au fond, de droite. Une ligne orthodoxe, déflationniste, austéritaire, qui fait que, à part ce que fait Brüning, on n'a pas d'autre idée que ça. On a un peu l'impression d'une mort cérébrale, en fait, du SPD à la fin des années 20 et au début des années 30, avec ce rôle qui est alors désastreux pendant tout Brüning, et qui est encore pire au moment où Papen et Schleicher arrivent, parce que quand Papen est nommé le 4 juin 1932, le SPD décide que là, c'est trop, ça va trop loin, donc on rentre en opposition franche et massive. Très bien. Et quand Schleicher succède à Papen, et que Schleicher prend attache avec les gens du SPD, des syndicats, pour dire, écoutez, le parti nazi va mal, ils sont en train d'exploser, moi, je vous propose de me tolérer pour me permettre de mettre fin à ce parti-là, et ensuite, on verra, faites ce que vous avez fait avec Brüning, tolérez-moi, là, le SPD refuse. C'est-à-dire que précisément au moment où il aurait fallu aider un homme de droite, je héroïse pas Schleicher, hein, c'est un type détestable par bien des aspects, mais n'empêche que ma thèse et celle de mes collègues allemands, c'est qu'en décembre 32, janvier 33, il avait une possibilité de mettre un coin, d'enfoncer un coin dans le parti nazi qui allait le faire exploser. Et c'est précisément à ce moment-là que le SPD décide de ne pas soutenir, alors que, ou de ne pas tolérer.
Alors qu'il essaie de leur donner des gages en proposant de revenir sur une série de mesures dites très dures à l'encontre de la classe ouvrière, des travailleurs, etc.
Schleicher a une vraie politique sociale.
Vous parlez même presque de gaullisme social avant l'heure, en quelque sorte.
C'est un peu l'équivalent que j'ai pu trouver pour essayer de qualifier Schleicher, hein, qui est un militaire conservateur de droite, mais qui a une sensibilité sociale. Donc, Mutatis mutandis, je parle de gaullisme social parce que c'est un peu ça qu'il s'agit, dans la mesure où il revient sur toutes les ordonnances Papen qui étaient les plus désastreuses, il protège l'assurance chômage, il a une politique de relance de l'emploi par les investissements de l'État, et par ailleurs, il veut une réforme agraire, lui aussi, ce qui, in fine, va le condamner aux yeux d'Hindenburg. Et là, le SPD aurait pu jouer un rôle positif et ne l'a pas fait. Pour ce qui est des communistes, c'est intéressant parce que vous l'évoquiez, on parlait de révision. Mais c'est très juste, une espèce de doxa là, qui veut que, au fond, c'est la gauche qui serait responsable de la fin de Weimar. C'est une thèse absolument aberrante, dans la mesure où il n'y a plus de fonctionnement parlementaire du régime depuis 1930. Donc dans cette mesure-là, les groupes parlementaires qui de fait se maintiennent au niveau du SPD, voire qui croissent au niveau du Parti communiste, ne peuvent pas jouer leur rôle, puisqu'il n'y a plus de Reichstag décisionnaire. Et ensuite, la politique du KPD, alors, c'est vrai que le lien consubstantiel avec Moscou pèse beaucoup, et notamment avec la politique stalinienne. On s'arrête sur une position classe contre classe à partir de 1928, et on tape beaucoup sur la social-démocratie, on parle de social-fascisme, puisque la social-démocratie détournerait les masses ouvrières de leur lieu naturel, qui serait les communistes. Mais cette ligne-là, d'une part, elle ne fait pas l'unanimité au sein du présidium du KPD, et d'autre part, elle est sujette à fluctuations. Et notamment ce que l'on observe en focale resserrée, quand on a une échelle plus fine, à partir du printemps 1932, le KPD, là, fait des offres de service au SPD. Sous la forme, alors, qui peut paraître un peu captieuse de l'union à la base, hein, Einheitsfront von unten, l'union à la base, mais également l'union au sommet. Il y a des perches qui sont tendues par le KPD, parce que le KPD s'est aperçu d'une chose, c'est que en avril 1932, il y a eu les élections du Parlement de Prusse. Et c'est quasiment un sondage à l'échelle au niveau du Reich, puisque la Prusse est 2/3 du Reich. Et là, les nazis ont fait une percée jusqu'à 36%. Et là, le KPD se rend compte qu'une politique d'opposition systématique au SPD aboutit à la croissance de l'extrême droite. Et donc là, il y a une offre de service que le SPD ne relève pas.
Oui, on insiste souvent sur le sectarisme des communistes à l'encontre des socialistes, qui par ailleurs s'enracine aussi dans le fait qu'il y a eu une répression social-démocrate féroce des insurrections spartakistes, notamment, et l'assassinat des 10 grands dirigeants communistes, Rosa Luxembourg et Liebknecht, en janvier 19.
Si je puis me permettre, il y a même plus que ça. C'est-à-dire que Luxembourg et Liebknecht, c'est très important, mais ce n'est que la vitrine d'une répression qui a fait 165 morts en janvier 19, qui a fait ensuite 1200 morts, rien qu'à Berlin, en mars 1919. Et le pire, c'est que 10 ans plus tard, en 1929, vous avez le 1er mai 1929, les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir au niveau du Reich et en Prusse ont interdit les manifestations du 1er mai, ce qui est un peu curieux pour des sociaux-démocrates. Les communistes sont passés outre, et là, le 1er mai 1929, vous avez 33 morts, avec de la police qui tire à l'arme lourde, voire avec des blindés dans les rues des quartiers communistes de Berlin. Donc ça a été atroce, et il y a un fossé de sang, en fait, hein, qui sépare les communistes des socialistes. Et quand les communistes parlent de social-fascisme, ça peut nous paraître aujourd'hui parfaitement aberrant, excessif, extrémiste, mais il y a quand même des dizaines de morts très récemment, le 1er mai 29, qui montrent que, enfin, qui semblent montrer aux communistes que décidément les sociaux-démocrates, ça reste la ligne Noske, c'est-à-dire celle du chien sanglant, je cite Noske, qui voulait détruire le mouvement ouvrier en 1919.
Et Par ailleurs, on insiste assez peu sur le fait que le SPD lui-même était extrêmement sectaire vis-à-vis des communistes, c'est-à-dire qu'il mettait très souvent sur le même plan, pour pas dire toujours, les communistes et les nazis comme des menaces, disons, symétriques pour la République de Weimar.
Oui, il y a ce slogan terrible, hein, c'est Kurt Schumacher, qui était un des hauts responsables du SPD, qui faisait partie de l'aile droite, qui jouera un rôle très important après la guerre dans la reconstruction du SPD. Kurt Schumacher qui parlait de « Rot la Kirche Faschisten », des fascistes repeints en rouge. Voilà, alors c'est terrible cette histoire-là, parce que, au fond, l'idée d'assimiler les extrêmes, alors c'est un vocabulaire qui a cours à l'époque, et c'est le vocabulaire de la droite. C'est Papen qui dit ça. Papen, il fait un discours le 20 juillet 1932, au moment du coup de Prusse, en parlant des extrêmes, et en disant quand même qu'il y a des extrêmes qui le sont plus que d'autres, et que...
C'est la gauche.
Voilà, c'est la gauche, évidemment, qui veut tout détruire, qui sont des bolchevistes culturels, etc. Alors que les nationalistes, qui veulent la patrie, les valeurs, la famille, eux, on peut s'entendre avec eux.
C'est des braves gens.
C'est des braves gens, c'est
un
les
peu,
nazis.
Un petit peu violents, mais ils ont à cœur un idéal...
Ils ont des valeurs. Voilà. Ils ont des valeurs. Et ce qui est terrible, c'est que... Alors, ce discours de la part d'un chef du gouvernement est parfaitement irresponsable, parce qu'on sort quand même d'un épisode de violence en juillet 32 où les nazis ont fait 100 morts quand même dans les rues allemandes. On a affaire à des tueurs, en fait, on a affaire à des monstres. Et ce discours qui est irresponsable pour un chef de gouvernement de droite est encore plus irresponsable de la part d'un responsable du SPD qui va assimiler les nazis aux communistes. Ça n'a rien à voir. Les communistes se font tuer par des nazis. C'est pas la même chose.
Je voudrais qu'on avance vers la fin de cet entretien avec peut-être une ou deux questions encore. Il y a un point qui nous concerne au premier chef en France aujourd'hui, c'est la dimension proprement institutionnelle, au sens ici des institutions politiques. La République de Weimar, vous l'avez dit, était une république parlementaire, mais qui donnait beaucoup de pouvoir dès l'origine au président du Reich, notamment à travers la possibilité de dissoudre le Parlement, mais aussi de gouverner... dans certaines circonstances, en tout cas par décret, disons, via l'article 48. Et à partir de 1930, donc vous l'avez dit, hein, le gouvernement Brüning va clairement aller au-delà des conditions qui étaient prévues par les constituants de 1918 pour imposer un régime présidentialiste, donnant un pouvoir exorbitant à l'exécutif. Or, vous montrez que cette expérience allemande de 1930 à 1933 va influencer des professeurs éminents de droit public en France dès 1930, enfin dès le début des années 30, notamment René Capitan, qui va plus tard jouer un rôle important dans l'élaboration de la constitution de la Ve République, dans laquelle nous nous situons encore.
Oui, il faut voir le contexte des années 30, c'est un contexte de remise en cause généralisée du parlementarisme, notamment en France, avec des réformateurs juridiques en France qui pensent la mutation du régime de la Troisième République vers un renforcement de l'exécutif. Ça a été très bien étudié par Nicolas Rousselier dans son HDR qui s'appelle « La force de gouverner », qui montre que, par exemple, on achète l'hôtel Matignon pour les services de la présidente du Conseil, on crée le secrétaire général du gouvernement, on veut renforcer l'exécutif. Mais il y a des juristes qui vont plus loin. Il y a le jeune juriste de droit public, jeune maître des requêtes au Conseil d'État qui s'appelle Michel Debray dans les années 30. Il y a le jeune agrégé de droit public René Capitan qui est nommé à l'Université de Strasbourg, qui regarde ce qui se passe en Allemagne, qui lit l'allemand, qui lit Carl Schmitt avec tout l'immense prestige de Carl Schmitt à l'époque, qui plaide lui depuis 1928 pour une présidentialisation du régime, qui est un peu la minerve de cette présidentialisation. Et René Capitan, en décembre 1932, publie un article sur le gouvernement Hindenburg, enfin sur la manière dont Hindenburg exerce le pouvoir par l'état d'exception. Il dit voilà ce qu'il faut faire en France. Il faut des pouvoirs exorbitants au président de la République ou du Reich. Et c'est René Capitan qui va quasiment rédiger le discours de Bayeux de 1946, qu'on nous présente dans les manuels comme étant sorti tout armé du cerveau du génial du général. C'est pas du tout le cas. Et en 1958, c'est René Capitan et Michel Debray qui vont tenir la plume. Et il y a des juristes qui ont travaillé sur cette influence allemande sur les réformateurs des années 30 et sur le fait que, au fond, la Constitution de 1958 est directement issue de cette expérience de la fin de la République de Weimar, c'est-à-dire fin d'un parlementarisme. Weimar montre, au fond, à des gens qui aiment le pouvoir exécutif, que un pouvoir exécutif fort peut casser la figure au parlementarisme. C'est ça la leçon d'Hindenburg, et c'est celle qui aboutit à la Ve République, qui va même plus loin que la Constitution de Weimar, parce que non seulement là, on fait le deuil du parlementarisme d'entrée de jeu, dès l'été 58, et par ailleurs, on confie sous forme de pouvoir propre au président de la République française, ce qui, pour Hindenburg, n'était que des pouvoirs partagés, c'est-à-dire contresignés par le chancelier. Alors, contre-signature, le contre-saint, finalement, il est purement formel, puisque le gouvernement ne tient que par la signature présidentielle. Donc, quand Hindenburg décide de dissoudre, c'est quasiment un pouvoir propre, hein, c'est un quasi-pouvoir propre. Mais on pousse cette logique-là pour faire d'un De Gaulle, le président de la République, une sorte de super Hindenburg. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne raconte jamais, parce que, vu le contexte et vu la manière dont ça a terminé, il est quand même plus valorisant de dire que De Gaulle est un génie, y compris d'un point de vue constitutionnel, plutôt que c'est l'exemple d'une bourre qu'on a imité. Hein.
Alors, il est difficile de ne pas lire votre ouvrage en pratiquant une histoire, disons, contrefactuelle. Qu'est-ce qui se serait passé si Hindenburg n'avait pas été élu, si le SPD n'avait pas fait tomber Schleicher, enfin, avait soutenu sans participer Schleicher. On connaît évidemment toutes les limites et les difficultés de cet exercice, mais dans le même temps, si on ne pratique pas ce type d'exercice, est-ce qu'on ne succombe pas immanquablement à peut-être l'illusion rétrospective de la fatalité ? Ça devait se passer comme ça, les nazis devaient nécessairement arriver au pouvoir et on ne manque pas un peu, en quelque sorte, les carrefours, entre guillemets, de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas important justement de réfléchir, de rehausser en quelque sorte cette idée des possibles latéraux, disait Pierre Bourdieu, pour avoir aussi une démarche stratégique au présent, se dire on a des possibilités d'agir, il n'y a pas de loi de l'histoire, quoi.
Alors, effectivement, le 1933, c'est le paradigme de la téléologie en histoire, du finalisme en histoire. Tout devait mener à 1933 dans l'histoire allemande parce que…
Barrière et la vision nazie.
Oui, absolument.
Tout devait mener à notre pouvoir.
Exactement, mais on a cette idée d'un chemin particulier que l'Allemagne aurait pris en 1948-49, faible culture démocratique, puissance des élites traditionnelles, tout ça est effectivement vrai, mais ce n'est pas déterminant au sens où ce n'est pas nécessitant. Il n'y a pas de nécessité en histoire. Et au fond, l'histoire allemande, et quand on est historien d'Allemagne, on est sensible à ça, étouffe de ce finalisme-là. Il faut vraiment rouvrir l'univers des possibles et en réalité faire de l'histoire, parce que quand on fait la téléologie, en réalité on fait la théologie, où on fait des sciences naturelles déterministes. Si on fait l'histoire, on est sensible aux marges d'action des acteurs, à leur liberté propre, à leurs calculs stratégiques, à leurs décisions, à leur liberté de choix, et de fait, ce qui apparaît à première vue et ce qui est présenté dans les manuels comme étant quelque chose de nécessaire et vraiment le paradigme du finalisme en histoire, apparaît au contraire comme un terrain de jeu extraordinaire pour le contrefactuel. Je l'esquisse dès 1925 avec l'élection présidentielle et le ballottage entre Marx et Hindenburg, mais pour 1932-1933, quand on nous présente l'arrivée des nazis au pouvoir comme inéluctable, on se rend compte qu'eux-mêmes, Hitler et Goebbels, quand même, au sommet, disent fin 32 que c'est fini.
Hitler parle de évoque son suicide même.
Alors Goebbels confie sa mélancolie dépressive à son journal à la Noël 32. Hitler parle de se suicider si jamais le parti éclate. Voilà où ils en sont eux. Donc il a fallu vraiment des calculs, des décisions autres, externes, pour mettre les nazis au pouvoir. Donc ce livre-là veut défataliser l'histoire, en réalité. Défataliser l'histoire en rouvrant l'univers des possibles, notamment en accordant beaucoup d'importance à cette séquence qui, là aussi, est complètement négligée, décembre 32, janvier 33, cet épisode du chancelier Schleicher, de ce général social, que certains appelaient le général rouge, puisqu'il avait une volonté de politique sociale, de réforme agraire, etc., qui avait non seulement cette volonté sociale-là, mais aussi un plan très élaboré, très intelligent et très plausible d'explosion du parti nazi, de recomposition du champ politique autour de lui. Alors, ça ne fait pas de lui un merveilleux démocrate et un libéral politique assumé, mais ça fait de lui quelqu'un qui, très plausiblement, nous aurait évité les nazis. Peut-être pas un raidissement autoritaire du régime, mais en tout cas pas les nazis. Et pas ce qui en est suivi, ce qui est quand même beaucoup. Et cet homme-là a chopé sur, encore une fois, des calculs, des décisions stratégiques, des intérêts particuliers et des machinations parfaitement sordides.
Dernière question, dans la conclusion de l'ouvrage, vous, d'une certaine manière, démolissez des lieux communs qui entourent la fonction de chercheur ou chercheuse en sciences sociales, notamment d'historien ou d'historienne, tous ces impératifs de neutralité, d'objectivité, et vous rappelez que, d'abord, ces idées ont très peu de valeur, pour ne pas dire aucune valeur sur un plan strict d'épistémologie des sciences sociales, et que, finalement, le refus de la neutralité n'implique en rien l'absence de rigueur ou de sérieux dans l'exercice du métier d'historien, pour parler comme Marc Bloch. Alors j'aimerais bien vous entendre juste pour terminer sur comment vous concevez peut-être à la fois la fonction de l'histoire et de l'historien et le métier d'historien.
Bah, je ne cache pas le fait que, dans le livre je le dis, hein, que la décision de travailler sur ce moment 30-33 est née de préoccupations de citoyens. Quelqu'un qui lit le journal, qui vote, qui a des enfants, qui s'intéresse à la vie politique de son pays, et qui remarque que depuis 2017, on a un extrême centre au pouvoir, je reprends le concept de Pierre Cernat, qui est en duo, quasi symbiotique avec l'extrême droite, et qui fait la politique de l'extrême droite jusqu'à voter donc la loi immigration de décembre 2023, qui m'a donné l'impétus, si vous voulez, pour rouvrir ce dossier de l'année 1932. Donc ça, c'est très clair, puisque toute histoire est contemporaine, y compris chez mes collègues préhistoriens ou mes amis hellénistes. C'est une banalité de le dire, mais les questionnaires historiographiques changent de génération en génération et changent selon le temps, selon le milieu social, selon les préoccupations des chercheuses et des chercheurs. Cela dit, si la question naît, la question d'une confluence entre extrême droite et extrême centre née de ma situation dans mon temps et dans mon lieu, hein, de citoyen, d'individu, ensuite je travaille sérieusement. C'est un livre qui a 600 notes en bas de page, qui est nourri par des sources, une historiographie massive, parce que j'ai voulu voir concrètement dans ce laboratoire de 1932 ce qui s'était passé. Laboratoire d'autant plus important que, comme on l'a dit, notre constitution est dérivée de la leur, la torsion de leur constitution. Et dans l'épilogue du livre, j'ai parlé de la comparaison en histoire et de l'analogie en histoire pour éviter les imputations, voire les inculpations habituelles de comparaison n'est pas raison ou de point Godwin. Alors ça, c'est quelque chose qui me hérisse ce qu'il me reste de cheveux aujourd'hui, parce que il est évident que de temps en temps, des gens qui travaillent sur le nazisme, oui, parlent du nazisme. Et je précise d'ailleurs que ce n'est pas du tout les spécialistes du nazisme qui saturent l'espace public de référence au Troisième Reich. C'est pas nous qui faisons des saluts nazis en plein meeting à Washington, c'est pas nous qui reprenons les mots, les obsessions et les concepts de l'extrême droite, ou c'est pas nous qui avons sur nos réseaux Facebook des références au Troisième Reich en permanence. Je pense notamment à cette espèce de zoo tératologique que constitue le cheptel des candidats du RN aux présidentes législatives. Donc c'est pas nous, en fait. Nous, on observe ça de manière parfaitement effaré, et ensuite on s'en saisit comme historien.
Merci beaucoup Johan Chapoutot pour ce livre salutaire, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup pour cet entretien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Hors Série.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Spectre.